deuxième podcast, j'ai choisi de vous expliquer un livre, Désir de ville. Paru en 2018 aux éditions Robert Laffont, il est coécrit par Eric Orsena et Nicolas Guilsou. L'un est écrivain, l'autre architecte. Ensemble, ils ont parcouru plus de 200 villes afin de comprendre comment elles s'adaptaient à de nouveaux enjeux. La diversité des villes étudiées est énorme. D'ici ou d'ailleurs, petite ou géante, de cauchemar ou de bonheur, réel ou inventé, la diversité est présente. Au moment de sa parution, 50 agglomérations avaient dépassé les 10 millions d'habitants. L'urbanisation prend de l'ampleur. Déjà, la moitié de nos semblables vivent en ville. D'ici 15-20 ans, ce sera peut-être les deux tiers. Face à cet afflux de population, la ville se doit d'être ingénieuse. Mais cette augmentation n'est pas le seul enjeu. La ville est comparée à un corps humain, vivant, qui bouge, ne s'arrête jamais vraiment, qui grandit ou se tasse avec l'âge, un corps fait de changements, qui se construit en permanence et se déconstruit pour construire à nouveau. Il meurt l'humain qu'on empêche de rêver, elle se dessèche, la ville qu'on empêche de s'imaginer. La première partie est tenue par Nicolas Guilsou. Elle s'intitule « Inventer pour vivre ». La ville du troisième millénaire fait face à de nouvelles dynamiques, des risques et des aléas de plus en plus nombreux. Croissance démographique, changement climatique, transition énergétique, crise socio-économique, gestion des déchets et pollution. Pour survivre, elle n'a pas d'autre choix qu'inventer, que de s'inventer. Dans cette partie, l'architecte paysagiste décortique leur stratégie innovante. Comme exposé précédemment, un des problèmes majeurs des villes est qu'elles deviennent trop petites. 3 milliards d'habitants qui se reproduisent et des milliers de migrants qui arrivent chaque jour, ça prend de la place. Pour éviter les bidonvilles et autres structures informelles qui s'installent en périphérie des agglomérations, plusieurs propositions sont faites. La première, au nom Fontin, intrigue. La ville Lego se construit verticalement. C'est un modèle que nous connaissons déjà. La différence ici est que ce ne sont pas que des logements. Des potagers, cultures, s'organisent vers le haut. Cette technique a pour avantage de nourrir la ville à proximité et d'économiser les ressources. L'homme pousse toujours plus loin, toujours plus haut. A l'inverse, les villes terriers se préparent. Ici, on exploite la place en dessous de nos pieds. On compte aujourd'hui plus d'un million de mètres carrés de villes terriers au Japon. 137 hectares à Tokyo ou encore 94 à Nagoya. Bien sûr, ce mode de vie est frais. Que se passe-t-il si la terre s'effondre, si la ventilation est en panne ou polluée? Mais plus ce mode de construction avance, plus la peur des souterrains recule. À New York, après l'attentat sur les tours jumelles, un nouveau projet pointe le bout de son nez. Ground Zero s'articule autour d'un jardin creux, un puits ouvert sur le centre de la Terre. Un second jardin, entièrement souterrain, est en construction, le Low Line Underground Park. Il se trouve dans un ancien terminal enterré de trolley, désaffecté depuis 1948. Il existe certains projets plus futuristes que d'autres. L'idée d'une ville flottante peut s'avérer utopique. Ou pas. Les projets sont là. Certains ont déjà leurs prototypes et leurs investisseurs. Peter Thiel, cofondateur de PayPal, a déjà financé plusieurs millions d'euros d'études pour DeltaSync. Ce projet est une ville paquebot basée sur l'économie des technologies de l'information et le tourisme médical situé au large du Honduras. Un autre projet, Green Flot, japonais cette fois, est prévu pour 2050. L'idée folle est une ville mouvante, à la dérive sur la ligne de l'équateur. Une île bateau de 3 km de diamètre, amphibie, modulable et reproductive. Elle pourrait accueillir et nourrir jusqu'à 1 million de personnes. Petit bonus, en cas de typhon, elle déploie un bouclier de 100 mètres de hauteur pour protéger son cœur de forêt cultivé et sa ville tour en alliage recyclé de magnésium marin. Bien, maintenant que nous avons logé 3 milliards de personnes, il faut gérer cette fourmilière qu'est la ville, c'est-à-dire tous les déplacements, les flux de personnes. À partir de 1940, les grandes villes américaines planifient à l'instar de Détroit, dit Motor City, leur propre autoroute urbaine. Les politiques sont convaincus. Pour sauver les centres-villes d'un déclin inéluctable, il faut les rendre accessibles en voiture. Le modèle plaît et s'exporte dès les années 60 en France. Même si le réseau routier joue un rôle indiscutable dans la mobilité des biens et des personnes en ville, il est aujourd'hui source de nombreuses nuisances. On ne présente plus pollution, microparticules et gaz à effet de serre. On parle même d'apocalypse. Mais c'est aussi une source de chaleur, de kilomètres de congestion automobile, de niveaux sonores perturbants et, bien sûr, une nuisance sociale. Alors, on cherche des alternatives. Les autoroutes sont reconverties en boulevards, avenues, parcs, forêts linéaires. On délaisse la voiture pour d'autres modes de transport plus adaptés à la vie citadine. Métro, tram, transport en commun et bien sûr vélo. Le champion toute catégorie du vélo, c'est le Danemark. Sa capitale est dotée de super autoroutes à vélo. Ainsi, 2/3 des habitants n'ont pas d'automobile. Copenhague a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de près de 20 000 tonnes par an. L'Europe tout entière débloque des budgets faramineux pour se doter de pistes cyclables. Alors sortez vélo, trottinette, skateboard, hoverboard ou encore échasse articulée. Mais on peut aussi marcher. Lille Métropole a planifié la requalification de 4 700 km de voirie en zone pédestre. La ville walkable ou marchable doit être attractive, hospitalière, accessible et confortable. Elle doit stimuler la curiosité par la richesse de son parcours. Ainsi, de nouveaux métiers font leur apparition. Wide Project est un éditeur français d'itinéraire mêlant géographe, paysagiste, designer et artiste. Il déploie des sentiers métropolitains à forte dimension culturelle. Ils ont déjà balisé le Grand Tunis, 180 km de sentier, le Grand New York ou le Grand Paris. Dernier point, l'attractivité d'une ville. La ville sans attractivité est une ville morte, délaissée de ses acteurs. Cette attractivité peut passer par plein de domaines, industrie, recherche, aviation ou encore le sport. C'est là aussi que la culture joue un rôle important. D'une part, elle attire touristes, industriels et événements extérieurs qui lui ramènent un potentiel économique. De l'autre, la culture est essentielle pour la fabrique de la société, le tissage de diversité, l'apprentissage de l'émancipation intellectuelle et donc de la démocratie. Dans la ville, elle est et doit être partout. Dans la rue comme dans les salles de concert les plus huppées. La culture permet la connexion d'individus à d'autres individus. Elle permet de dépasser les frontières de son quartier, de sa cité, de son immeuble et d'aller à la rencontre de l'autre. Si la question de nos villes, de leur devenir et du rôle que nous y avons vous intéresse, Nicolas Guilsou a aussi écrit « Bêtes de ville, petit traité d'histoire naturelle au cœur des cités du monde ».